Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de Perds pas ma page, un podcast où l'on parle coup de cœur littéraire avec des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Je suis Edouard Bonamour et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 11e épisode. Cette semaine, mon invité est un poète, mais lui, c'est avec son corps qu'il pratique la poésie. Paul Marc a 24 ans et il est danseur étoile. Il a obtenu ce titre l'an dernier en pleine période de Covid, quand les spectacles se regardaient encore en direct sur Internet. Paul a commencé la danse quand il avait 4 ans, grâce à sa grande sœur qui prenait des cours à Dax, sa ville natale. À 10 ans, il est reçu du premier coup à l'école de danse de l'Opéra de Paris et depuis, son ascension a été fulgurante. J'ai retrouvé Paul dans sa loge attitrée à l'Opéra Garnier quand il se préparait à tenir le rôle de Roméo dans le ballet Roméo et Juliette du célèbre chorégraphe Rodolphe Nourieff, une loge dans laquelle il possède une bibliothèque remplie de livres qu'il a dévorés et dont il va nous parler. Alors perds pas ma page, c'est parti, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Paul.
Salut.
Je suis très heureux de te retrouver et puis surtout je suis super content que tu aies accepté mon invitation.
Je suis ravi aussi.
On est dans ta loge dans l'Opéra Garnier, ce qui est quand même classe.
Ouais.
Juste devant ton placard qui est rempli de bouquins mais que tu vas me montrer tout à l'heure si
c'est
tu veux.
C'est ça.
Je voulais juste te rappeler en deux mots le principe du podcast. Tu m'as donc donné trois titres de livres, titres qui t'ont marqué. Et tu vas justement m'expliquer pourquoi tout de suite. L'idée, c'est vraiment de faire connaissance avec toi à travers ces livres,
d'accord,
de savoir pourquoi tu les as aimés, pas du tout de faire une étude de texte. Et puis surtout, c'est de me donner envie de les lire ou de les relire pour certains. Et à ceux qui nous écoutent aussi. J'en ai deux devant moi. Je ne sais pas si tu as le troisième ici. Mais,
je dois avoir le troisième ici, ouais.
Tu les gardes tous ici ? Attends, mais tu sais quoi ?
Je vais juste...
Attends, comme t'es devant. Tiens, regarde. Je vais te donner ça.
Ouais.
Attends, mais raconte-moi un peu, là, cette bibliothèque. C'est génial, parce que je vois que t'as autant... Vivre sans gluten pour les nuls.
Oui, on fait tous des erreurs de parcours.
Non, c'est intéressant. Et je regarde en même temps... T'en as pas mal, quoi. Et puis j'ai l'impression surtout que quand tu découvres un auteur, tu lis pas mal de ses livres, non ? Parce que t'as beaucoup de Michel Bussy.
Il y a des histoires que j'aime, mais je trouve encore plus intéressante la façon dont c'est raconté.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a des auteurs qui peuvent nous raconter n'importe quelle histoire, mais la manière dont ils vont le raconter va nous toucher particulièrement et va faire qu'on va aimer presque peut-être plus le style de l'auteur finalement que l'histoire en elle-même.
Ok.
Après, quand il y a les deux,
c'est encore mieux,
forcément. Mais ouais, du coup, il y a beaucoup en fait, d'auteurs que j'aime, mais du coup, bah, forcément, je lis tous leurs livres.
Parce que là, c'est impressionnant. T'as plein de Michel Bussy,
ouais,
Joël Dicker, du coup, Dan Brown. Tu les as tous, je pense, à peu près.
Je les ai tous de Dan Brown, ouais. Dès qu'ils sortent, il y en a d'autres ici, du coup. Dès qu'ils sortent, je les achète. Je suis fan.
Et t'as surtout pas mal de... Polar au final, non ? Pas mal d'histoires un peu policières.
Pas mal de polars et puis après, pas mal de romans, de belles histoires d'amour, parce que je suis fleur bleue au possible.
C'est vrai, c'est bien, tu nous en parles. Bon bah c'est cool, mais il y a quand même le vivre sans gluten, c'est celui qui m'a sauté aux yeux, je voulais en parler.
Le vivre sans gluten, et oui, on fait tous des erreurs de parcours, c'est comme ça.
Est-ce que du coup tu vis sans gluten ou pas du tout ?
Mais absolument pas en plus.
Ça a été une erreur. Tiens, je te remets celui-là. Merci, nickel. Du coup, donc tu m'as donné trois titres plus particulièrement. Par lequel tu veux commencer ? Je te laisse choisir.
Commençons par Millennium.
Est-il encore nécessaire de présenter ce best-seller suédois publié à partir de 2005 ? On estime que la saga s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est colossal. Stieg Larsson n'a jamais pu profiter du succès des aventures de son célèbre duo composé de la hackeuse Lisbeth Salander et du journaliste Mikael Blomqvist. L'auteur est mort d'une crise cardiaque en 2004, un an avant la publication du premier tome « Les hommes qui n'aimaient pas les femmes ». Derrière ses œuvres, c'est la personnalité de Stieg Larsson qui est passionnante, journaliste très engagé contre l'extrême droite. Il s'est nourri de ses expériences et de ses rencontres professionnelles pour écrire ses livres et réinventer le genre du polar nordique. La maison d'édition suédoise Polaris vient d'acquérir les droits auprès de la famille de Stieg Larsson et elle a d'ailleurs annoncé qu'une nouvelle trilogie allait bientôt voir le jour. Juste le temps pour eux de trouver l'auteur capable de reprendre le flambeau. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un détail qui a son importance.
Alors,
Millennium, alors tu me disais, j'ai acheté, là on a que le tome 1. Mais tu me parlais de la première trilogie, celle de Stieg Larsson, là, vraiment la trilogie originale.
J'ai adoré la trilogie de Stieg Larsson. Stieg Larsson, je ne sais pas comment
Stieg Larsson, on va dire Stieg Larsson.
Stieg Larsson. C'est vrai que le 4, 5, 6, ça a changé d'auteur et j'ai moins aimé le style de l'auteur, en fait. Mais Stieg Larsson, il a une manière de raconter ces histoires qui est absolument incroyable.
Alors déjà, je veux bien que tu me racontes comment tu l'as découvert, ce livre.
Alors ce livre, je l'ai découvert, c'est une amie qui m'en a parlé, qui m'a dit « il faut absolument que tu le lises, il est génial ce livre ». Il y a pas mal de livres comme ça en fait que je découvre, du coup après d'auteurs automatiquement que je découvre. Et surtout c'est un livre que j'ai lu, je lisais pas beaucoup quand j'étais enfant ou ado, et je me suis mis à lire il y a 4-5 ans, réellement beaucoup.
Okay.
Et du coup je cherchais pas mal aussi ce qui me plaisait, parce qu'on peut adorer les polars mais pas du tout les romans ou les romans historiques par exemple, donc il faut aussi trouver un peu son style, ce qu'on aime lire forcément pour que ça reste un moment de plaisir. Et du coup c'était un peu un moment où je cherchais ce qui me plaisait. Et du coup une amie m'avait dit de lire Millennium. Donc je l'ai fait, j'étais absolument fan.
Et juste pour rebondir avant que tu me parles du livre, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a 4-5 ans, tu t'es dit, tiens, en fait, j'ai vraiment envie de bouquiner? C'est parce que tu avais du temps dans ta loge entre deux spectacles, parce que...
Pas vraiment. En fait, j'ai un ami toujours qui a été choqué d'apprendre que j'avais vu Da Vinci Code, le film, mais que j'avais pas lu le livre de Dan Brown, qui me l'a offert... du coup pour me forcer à le lire alors qu'à la base je suis genre non, pas le temps de lire, enfin. Et en fait je crois que j'ai peut-être lu en une journée, en deux fois, j'ai fait une pause au milieu et je l'ai lu quasiment d'une traite et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Du coup de là j'ai acheté tous les livres de Dan Brown. et en fait j'ai passé des super moments à lire et j'adore ça, je lis une cinquantaine de bouquins par an.
Mais t'as le temps de lire?
Non, mais je trouve le temps quand je suis dans le métro, quand j'ai 15 minutes de pause dans ma loge avant de dormir le soir. Ça fait super bien dormir de lire avant de dormir.
C'est vrai.
Donc parfois, ça m'arrive de lire avant de dormir quand je suis pas trop claqué ou voilà que je peux. Voilà, je lis. Mais en fait, dès que j'ai un mini temps de pause, je prends un livre et je lis.
Et alors pour Millennium, est-ce que tu avais d'abord vu le film ou t'as...
Non, quand même, j'ai d'abord lu le livre. Ouais.
Okay. Et
d'ailleurs, j'ai vu le film après, j'ai été très déçu par le film.
C'est vrai?
Ouais.
La version américaine ou la version...
Américaine.
Américaine.
Ouais, parce qu'il n'y a pas autant de choses que dans le livre.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce bouquin, du coup?
Ce qui m'a plu, alors bon, déjà, il y a quand même un univers très
dark.
Sombre, dark, mais finalement qui me plaît assez. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que en fait, ce livre, il fait combien de pages? Il fait 700 pages, un peu plus de 700 pages, et en fait c'est un résumé. C'est-à-dire qu'il se passe, enfin il n'y a pas de longueur, et jamais, il se passe toujours quelque chose. Et si on veut résumer ce livre, en fait il faut lire le livre, parce que c'est pas possible de faire un résumé de ce livre tellement il se passe de choses. Il y a toujours des rebondissements dans tous les sens. Je serais incapable d'ailleurs de remettre l'histoire dans le bon ordre après l'avoir lu, tellement il y a de choses de partout et des liens qui se créent, des choses. Et c'est ça que je trouve incroyable.
Et puis
y a toujours quelque chose qui se passe, quoi.
Avec des personnages aussi de dingue, d'ailleurs,
des
je pense que c'est ce qui a.
Ils sont très, d'ailleurs, très, comment dire, définis. Ils ont vraiment une personnalité qui leur est propre.
Ouais.
C'est pas finalement monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment des personnages très particuliers. Et aussi c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les personnages qui sont très particuliers, leurs réactions, etc., et comment ils vont mener l'histoire en fait qui se déroule dans ce livre.
Tu l'as lu, t'étais déjà ici, t'étais déjà à l'opéra, t'étais déjà...
J'étais déjà à l'opéra, ouais, et je sais pas si j'étais déjà installé dans ma loge ou pas. Je sais plus, il me semble pas, mais je suis pas sûr.
Tu l'as conseillé un peu à d'autres personnes, tu l'as...
Ah, je l'ai refilé à à qui voulait l'entendre, j'en parlais tout le temps. Ouais, j'ai adoré et du coup, j'ai tout de suite acheté le 2, le 3, enfin tous les livres en fait pour avoir la suite de l'histoire parce qu'en plus du coup, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe après de continuer l'histoire donc ouais, je les ai tout de suite achetés et lus.
Et justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure en regardant ta bibliothèque. C'est vrai que le polar, t'aimes ça, quoi.
C'est
un genre qui te
Ben, j'aime en fait surtout plus que les polars, en fait, les énigmes.
Ouais.
Et c'est pour ça, entre autres, que par exemple, j'adore Michel Bussy. C'est que pendant tout son livre, on va suivre l'histoire, on va comprendre un peu ce qui se passe, sans rien comprendre en même temps. Et en fait, sur le dernier chapitre, le dernier paragraphe, voire la dernière ligne, ou voire même... Tellement cet auteur est un psychopathe, dans le titre de son bouquin, on ne comprend rien pendant tout le livre et on a juste une phrase à la toute fin qui enclenche tout et qui nous fait dire mais bien sûr, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Alors en fait, c'était sous nos yeux depuis le début et son coup de maître, je ne dirais pas lequel c'est parce que je n'ai pas envie de spoiler du tout, mais il y a un de ses bouquins où en fait, pendant toute l'histoire, donc on a le titre du livre, on lit toute l'histoire et en fait, au dénouement, on se dit. Putain, mais en fait, c'est le titre du livre. On l'a sur le titre du livre depuis le début sous les yeux. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est les auteurs qui arrivent à nous faire plonger dans un truc où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends rien, j'ai envie de savoir qui réussissent à nous tenir complètement du début à la fin.
Mais plus que tu trouves une série télé, par exemple, ou c'est complètement... Bah, est-ce que
C'est
tu
très
trouves...
différent.
Ouais, c'est différent.
C'est très différent et bah, y a un côté où en fait les livres. J'arrive vraiment à me plonger dedans pour le coup et j'arrive à ne pas entendre mon téléphone quand il sonne, quand je suis en train de lire, tellement je suis dans l'histoire. Alors que finalement, une série ou un film, je suis toujours en train de faire quelque chose en même temps, je suis toujours en train de faire la vaisselle, de faire le ménage, de répondre à des textos. Donc je suis moins à chaque fois dedans, alors que dans un livre, pour le coup, je suis vraiment plongé dans l'univers et j'essaie vraiment d'être dans le livre.
Ouais. Par contre, si tu te plonges dans l'univers de Millennium avant de monter sur scène à l'opéra,
Ah oui, non, ça non,
faut arriver.
Ou ça
faut
dépend du ballet.
Ouais, c'est ça. Ça peut te mettre dans une ambiance particulière.
Pourquoi pas? Ça peut être intéressant.
On passe au deuxième livre que tu m'as cité, soit Agnès Martin-Lugan.
Eh ben ouais,
soit...
partons
ouais.
Du coup sur Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan.
Ce livre est une success story qui fait rêver tous les écrivains en herbe. En 2012, après 2 ans d'écriture, Agnès Martin-Lugan vient de terminer son manuscrit et décide de l'envoyer à 4 maisons d'édition, mais toutes refusent de le publier. Comme l'auteur n'est pas du genre à baisser les bras, elle se lance grâce à l'auto-édition, et c'est le jackpot. En 3 semaines, son livre devient numéro 1 des ventes et attire l'attention d'une grosse maison d'édition, Michel Lafon. Bonne pioche, puisque le livre en version papier s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires, toutes éditions confondues. Comme quoi, quand on veut devenir écrivain et qu'on y croit, il ne faut jamais baisser les bras.
Alors pareil, ça, comment... pour le coup, qui est un roman histoire d'amour, ouais. En fait, qui se lit très facilement, qui n'est pas très épais. Je suis très fleur bleue, je suis un peu amoureux de l'amour.
Okay.
Donc forcément, j'adore aussi les belles histoires d'amour. Et en même temps, ce livre, il y a toute cette histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Et en même temps, c'est un livre qui se termine mal. Et on n'a pas la fin attendue qu'on a à la fin de tous les films américains où il y a un dénouement heureux. Alors, il y a une suite à ce bouquin, quand même, heureusement. Mais c'est l'un des premiers bouquins en fait, que j'ai lu et qui ne se termine pas du tout de la manière dont on attendrait en fait, que ça se termine. Et c'est un peu aussi le livre, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est un peu un livre aussi qui m'a fait dire, dans les films ou dans les livres, ça peut se passer comme on veut, finalement, dans la vie de tous les jours, comme dans ce bouquin, parfois ça se termine pas de la meilleure façon qui soit. Et du coup, ça m'a énormément touché, et puis l'histoire d'amour entre les deux personnages est très touchante, ils sont très attachants, et donc, ouais, voilà.
Comment tu l'as découvert, ce livre?
Complètement par hasard. Complètement par hasard, il devait être dans les top ventes à la Fnac ou au BHV. Et j'ai lu le résumé, ça correspondait à des livres que j'aime lire. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai acheté donc Les gens heureux lisent et boivent du café, qui est son premier bouquin d'ailleurs, je crois. Le premier livre qu'elle écrit, et j'ai adoré. J'ai adoré, donc j'ai acheté aussi tous les livres de Agnès Martin-Leblanc.
Un acheteur compulsif.
Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles.
T'arrives juste, est-ce que tu trouves le temps d'aller balader dans les librairies un petit peu? Tu peux flâner comme ça?
Ça dépend des périodes. Ouais. Ça dépend des périodes, concrètement en ce moment, non, absolument pas.
Mais quel fainéant tu fais quand même, franchement.
C'est vrai qu'à 23h30, je pourrais quand
oui,
même.
Oui, c'est
aller,
vrai, franchement, tu pourrais faire un effort.
Pour m'acheter des livres ou dans la librairie à côté
alors
de
alors que
tu n'es
pas du tout fatigué le soir, tu vois, franchement.
Non, et puis à 23h30, toutes les librairies sont ouvertes.
Bah, c'est sûr.
Donc. Non mais c'est vrai que j'adore en plus être dans les librairies avec tous les bouquins, je trouve ça génial, j'adore
c'est le champ des possibles un peu
Ouais, et puis du coup de découvrir tous les livres à chaque fois, j'ai envie de repartir avec des valises complètes de livres.
C'est toujours le problème.
C'est un peu toujours le problème, mais voilà, j'essaie de me restreindre quand même un petit peu.
Et au-delà de l'aspect histoire d'amour, etc., qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu dans... C'est aussi l'écriture. Tu me parlais que toi, t'aimais bien l'écriture, la manière dont c'était raconté. C'est peut-être un peu ça qui t'a aussi
porté. Oui, c'est vrai
porté.
Que je trouve qu'Agnès Martin-Lugan, elle a une sensibilité que j'aime énormément, une façon de raconter, du coup, entre autres, cette histoire d'amour que j'ai particulièrement aimée, qui m'a particulièrement touché. J'ai beaucoup aimé ses autres livres aussi, mais c'est vrai que celui-là est, du coup, la suite aussi. Elle a réussi à créer une atmosphère et un rythme aussi dans son livre assez particulier. Je ne saurais pas trop comment le décrire, que je retrouve un peu dans ses autres bouquins, mais moins. Mmh. Et c'est pour ça que celui-là, du coup, m'a particulièrement touché. Et la suite aussi est très, très bien. Mais celui-là, il y avait vraiment un gros coup de cœur pour la façon dont les événements s'enchaînaient dans son livre, dans sa manière d'écrire, dans les mots qu'elle choisissait. Ouais, il y a un truc qui m'a vraiment touché dans sa manière d'écrire.
On passe au dernier livre que tu m'as conseillé, qui est le Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622.
Ouais, c'est ça.
Ni plus ni moins que le roman le plus vendu en 2020, 494 000 exemplaires. Et ce succès dure depuis 2012 et les 3 millions de livres vendus dans le monde de la vérité sur l'affaire Harry Kéber que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, Joël Dicker a fait une annonce qui devrait ravir tous les fans sur son compte Instagram. Il vient de terminer la suite justement d'Harry Kéber et le livre devrait sortir en 2022.
Ouais, j'aime aussi énormément Joël Dicker et entre autres trois de ses bouquins qui sont absolument incroyables mais qui sont des best-sellers, c'est La disparition de Stéphanie Meiler, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et du coup son dernier L'énigme de la chambre 622. Parce que pareil, il a un univers qui lui est vraiment propre pour le coup, qui est très particulier. Il a aussi une manière un peu comme Stieg Larsson d'enchaîner très vite tous les événements, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a un peu de Michel Bussy dans le sens où on a énormément d'informations et au fur et à mesure ça se met en place et on fait des liens alors qu'au début on comprend rien. Voilà, et on ne s'attend jamais non plus à la fin, on a toujours en fait à la fin à se dire ah mais oui mais bien sûr mais pourquoi j'ai pas pensé avant, alors qu'en fait sur tout le bouquin on était complètement dans d'autres directions en fait, sur ces énigmes, sur ces meurtres, etc. Et l'énigme de la chambre 622, je l'ai particulièrement aimé parce que, aussi, pour une fois, il se cache pas derrière un personnage qui est un auteur, qui écrit dans son livre. Pour le coup, il dit vraiment « je ». Et c'est la première fois, du coup, qu'il se met vraiment, lui, en scène dans son livre. J'avais presque envie de dire « ah, ben, enfin !» Puisque pendant, du coup, dans ses autres livres, il met en scène ce personnage qui lui ressemble évidemment énormément, mais qui apparemment n'est pas lui.
Voilà, non, du coup, c'était, c'est ce qu'il dit en tout cas.
De ce qu'il dit. Je pense qu'on a tous envie de croire que c'est lui qui met en scène, mais pour le coup, voilà, dans ce livre, c'est la première fois qu'il se met lui-même en scène, qu'il raconte vraiment en disant « je ». Et du coup, ça apporte quelque chose encore en plus et presque une envie d'y croire encore plus forte. Surtout du coup quand on a lu le livre, mais je veux absolument pas spoiler.
Non. Donc, alors surtout faut pas spoiler parce que l'édication commence, et on s'en sort plus pour raconter l'histoire.
Non, mais donc voilà, donc le fait qu'ils se mettent en scène et puis qu'ils racontent finalement un peu de personnel avec toute son histoire avec son éditeur aussi.
Ouais.
Du coup il y a un côté assez touchant.
C'est lequel le premier que tu as lu de Joël Dicker? C'était Harry Kébert, tu penses?
Je pense que c'était Harry Kébert, ouais. Ou le livre des Baltimore. Non, je crois que c'était Harry Kébert. Ouais.
Pareil, on te l'a conseillé, t'es tombé dessus par hasard.
Est-ce qu'on me l'avait conseillé? Je sais plus. Ouais, soit on me l'avait conseillé, soit j'étais tombé. Ouh non, ça devait être ma mère qui me l'avait conseillé.
Ah ouais?
Ouais.
Tu parles pas mal de bouquins avec ta mère, avec tes parents, peut-être
Mon père lit pas énormément, ma mère lit beaucoup, ouais. donc on s'échange nos bouquins, on se donne des petits « Ah, ce livre, il était génial, celui-là, j'ai pas du tout aimé
!» Des petits conseils comme ça.
Ouais.
Mais je te repose la question, parce que t'es quand même aujourd'hui danseur étoile, tu trouves le temps quand même de lire, de bouquiner dans cette loge, peut-être tu te poses...
On va regarder ce qu'il y a dans mon... En ce moment, par exemple, du coup...
Dans ton sac à dos, tu ouvres ton sac à dos, donc pour...
J'ouvre mon sac à dos pour et du coup, ta j'ai dernière toujours un bouquin dans mon sac à dos. En ce moment, du coup, c'est « À même la peau » de Lisa Gardner.
Ok.
Et j'en suis, quoi, la moitié du bouquin, même pas. J'en suis même pas à la moitié du bouquin. Et ça fait 3 semaines que je l'ai commencé. Voilà.
Ouais, bon, là en ce moment, t'es en préparation.
Concrètement, autant il y a des week-ends où je peux lire 3 ou 4 bouquins d'un coup. Si j'ai le temps, je peux même mettre mon réveil une demi-heure plus tôt pour pouvoir lire le matin.
Exemple,
ça m'arrive. Bah, si le dimanche j'ai un brunch avec des amis, je vais mettre mon réveil une demi-heure plus tôt parce que comme ça, je sais qu'en prenant mon café le matin, je vais pouvoir avoir une demi-heure de lecture. Mais bon, concrètement, c'est pas le cas en ce moment.
La demi-heure là te sert à dormir peut-être un petit peu, à te reposer un
même
peu.
Même pas en fait. Là, j'ai même pas le temps de lire le soir avant de dormir.
J'imagine. Ouais, parce que c'est marrant. Tu vois, j'ai fait une interview avec Alizé Lim, qui est une joueuse de tennis, qui vient d'écrire un bouquin d'ailleurs sur un peu sa vie de sportif de haut niveau. Elle me disait que elle, justement, en tant que sportive, ça, elle avait besoin de ça parce que quand tu pratiques comme ça un sport, parce que c'est un sport en fait. Je sais pas si toi tu dis sport ou art.
Alors
ou,
on est malheureusement pas considéré comme sportif de haut niveau en danse, mais nous personnellement pour nos égos, on se considère sportif de haut niveau.
Ouais, je pense qu'on peut dire ça. On va dire sportif de haut niveau. Mais c'est vrai qu'elle me disait qu'elle avait comme si c'était un besoin d'avoir ces bulles ou un peu où elle pouvait s'échapper parce que ça demande tellement d'investissement.
C'est ça, c'est vrai que ça, c'est un peu une manière aussi de s'échapper à certains moments, de se déconnecter, parce que c'est des métiers, du coup, des sports ou des passions qui sont tellement prenants que si on se déconnecte pas, si on n'a pas complètement autre chose à côté, je pense qu'on pète un câble très rapidement. Mmh. Mais pour beaucoup de métiers, en fait.
Ouais.
Je pense qu'on a besoin aussi d'avoir d'autres passions à côté, des hobbies, des choses qu'on fait et qui nous font plaisir et qui nous déconnectent complètement. Et la lecture, entre autres, ça nous plonge dans des univers complètement différents où justement on est concentré sur l'histoire, on est plongé dans l'histoire et du coup on pense absolument pas au boulot, à est-ce que merde, j'ai bien fait mon cours de danse, non, la répétition ça s'est mal passé. Donc ça nous sort complètement de nos univers et ça permet de se déconnecter et de pouvoir aussi un peu se ressourcer du coup.
Je me demandais aussi, est-ce que quand tu prépares un rôle comme celui de Roméo et Juliette par exemple, tu lis aussi du coup
le... Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, je lis l'œuvre en tout cas dont le ballet est tiré. Après, généralement, on a aussi un argument ou un livret qui est réécrit pour le ballet, puisqu'on ne peut pas forcément tout mettre en scène, ou il y a des parties de l'histoire qu'on est obligé de couper, d'un peu modifier ou comme ça. Donc je lis l'œuvre originale forcément, et après on lit aussi les arguments, les livrets, voilà.
Pour te mettre un peu dans le rôle,
pour me mettre dans le rôle. Après, c'est des recherches aussi pour parce qu'on a une grande part du coup artistique d'interprétation et de pas de jeu d'acteur, mais dans un sens un petit peu. Donc forcément, pour comprendre le personnage, pour comprendre comment on doit réagir à telle situation, comment faire, et pour du coup s'imprégner en fait du personnage, essayer de devenir le personnage pour être le plus naturel possible, tout en respectant forcément l'histoire. Puisque bon, c'est pas possible d'interpréter deux personnages complètement différents de la même manière. Donc justement, il faut faire ses recherches, il faut expérimenter et se renseigner sur les personnages pour pouvoir correctement les jouer.
Et là, est-ce que tu t'es bien approprié ce rôle de Roméo, du coup ?
Ouais, j'ai fait mes recherches, en tout cas. Après, ce sera au spectateur de juger de ce côté-là, de si j'ai bien fait mon boulot ou pas.
Bon, top. Pour finir, j'ai pour habitude d'offrir un... Tiens, je vais quand même enlever l'étiquette avec le prix. Ça, c'est pas trop d'offrir un bouquin avec l'étiquette avec le prix.
On dira rien, c'est pas grave.
On donnera pas le prix. Non, j'ai pour habitude, là, pour finir... Merde, le prix est en dessous. Bon
je regarderai.
Tu regarderas pas. J'ai pour habitude d'offrir un livre que j'ai lu et que j'ai aimé moi aussi.
Ouais.
Et là, j'ai voulu t'offrir Alex de Pierre Lemaitre.
Ah, génial.
Alors,
j'ai lu quelques Pierre Lemaitre.
Alors, j'ai vu que tu avais Au revoir là-haut, ouais, justement, dans ton armoire.
Ouais.
Mais est-ce que tu as lu Alex ?
J'ai pas lu Alex.
Alors, tu sais, Pierre Lemaitre, il écrivait des polars, en fait. Avant d'avoir le prix Goncourt et tout, il était auteur de polars. Et Alex est l'un de ses plus connus, avec j'ai lu Robe de mariée aussi. Et Le serpent majuscule, le tout dernier qui vient de sortir, qui est génial, qui est excellent. Alex, c'est l'histoire d'une femme qui est enlevée un jour, qui disparaît, qui est emprisonnée dans des conditions atroces, elle est dans une cage, etc. Et c'est aussi tout l'homme qui va mener l'enquête pour la retrouver. Et puis il y a un retournement de situation qui est génial, qui est hyper surprenant, et c'est un peu dur, c'est assez violent, Lemaitre, en fait. Enfin, c'est intense, quoi, comme lecture.
C'est assez particulier, mais il arrive quand même, du coup, aussi, lui, à nous plonger dans son univers, vraiment. Et c'est très agréable de lire ces livres.
Et puis je trouve que c'est extrêmement bien écrit, et j'adore, moi, son écriture qui mélange un peu plein de genres, qui est un peu drôle mais qui est hyper acide aussi, oui, tu vois, envers les personnages et tout. Donc voilà, Alex de Pierre Lemaitre, et je suis content que tu l'aies pas lu. Merci beaucoup, Paul,
merci à toi
de nous avoir parlé de tout ça. Bon, on va dire merde pour ton rôle dans 2 semaines.
C'est gentil, bientôt. Je peux pas dire le mot qui commence par M-E-R-C, je ne dirai pas la dernière lettre.
Non.
Ça porte malheur, mais je prends, c'est gentil.
Et puis à très bientôt.
À très vite.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À partir du 9 décembre et jusqu'en janvier, Paul sera Basilio dans Don Quichotte à l'Opéra Bastille. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter ou Instagram de Perpa Ma Page, et surtout pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode du podcast. Je vous rappelle que Perpa Ma Page est également diffusé tous les lundis sur la Tsugi Radio sur Internet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, très bonne lecture.